Vous savez, le grand avantage que l'on a, c'est que, je dis par rapport à nos concitoyens, on a le grand avantage de pouvoir lever les yeux au ciel. Et on l'a chanté, moi, ce chant, « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut ». Est-ce qu'on réalise que nous avons un Dieu qui nous a sauvés et sur lequel on peut poser nos regards sur lui? Et ce matin, voilà, il y a aussi cette croix, il y a cette scène. Et je voudrais lire quelques passages, et ça me fait penser à la suite un peu du culte aussi de dimanche dernier, que nous avons vaincu. C'est ce verset 14 du chapitre 3 de l'évangile de Jean. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Il a été élevé à la croix. Il a été élevé sous cette croix. « Et afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et puis ce verset qu'on connaît tous, qu'on pourrait tous dire d'une seule voix, « Proclamer d'une seule voix, car Dieu a tant aimé le monde, je vous écoute, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le Dieu vers lequel on peut lever les yeux ce matin et chaque jour de notre vie. Et c'est quelque chose de fort pour nous de pouvoir se souvenir vraiment que dans le moment où ça ne va pas, où on en est dans l'obscurité, où peut-être tout semble s'assaillir, qu'on a un espoir de lever, de percer un peu cette voûte, ce béton, je ne sais pas quoi, cette obscurité qui nous semble à nous à vue humaine infranchissable, de pouvoir lever les yeux pour avoir accès à la lumière. Et puis, ça me fait penser aussi, plus loin, Jean, il revient aussi là-dessus. Et il y a une précision, chapitre 12, et je introduirai la scène dans ce sens. Verset 33 du chapitre 12 de Jean. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et on pense que ça, c'est quand il retournerait au ciel, quand il serait dans son ciel de gloire. Et la précision, il y a des traits, verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il attirerait tout le monde à lui sur la croix. Et ce matin, nous allons nous souvenir de ça. Nous allons partager ce pain, nous allons boire à ce jus de raisin qui nous rappelle vraiment quelle est cette œuvre à la croix. Et comment nous pouvons encore d'autant plus élever nos regards vers lui? Comment nous pouvons encore plus l'adorer et être reconnaissants vraiment pour ce qu'il a fait? Parce que c'est tout à la croix, c'est à la croix seulement que cette victoire a été acquise. Et c'est grâce à cette œuvre à la croix que nous pouvons maintenant, nous, lever les yeux au ciel et l'adorer et être reconnaissants et attendre de lui aussi les bénédictions qu'il nous promet. Donc je voudrais inviter Greg et Pierrick pour introduire ce moment avant le partage.
Merci Seigneur que tu es là parmi nous maintenant. Et ça c'est grâce que tu es mort pour nous sur la croix. Tu as donné ton corps pour que pas juste ceux qui étaient là à ce moment-là soient sauvés, pas ceux qui, quelques-uns après non plus, mais pour toute l'humanité peut être sauvée en ton nom. Et je te remercie parce que avec la louange ce matin, on a su aussi que tu es toujours là avec nous maintenant. Tu es toujours parmi nous. Amen.
Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Merci pour cet amour qui a coulé pour nous. Et merci de m'avoir attiré, de nous avoir attiré à toi. Parce que moi, je n'aurais pas pu le faire tout seul, Seigneur. Merci pour ton amour encore aujourd'hui et pour ce privilège de participer à ton repas encore aujourd'hui. Merci Seigneur.
Nous pouvons voir comment la parole de Dieu peut nous parler, peut nous faire du bien, peut reconstruire des fois des choses qui sont qu'on a oubliées ou qui ont été cassées dans notre vie. Et je pense que ce matin, voilà, que nous soyons dans cette ouverture, dans cette attente aussi que la parole nous parle. Et je voudrais prier vraiment que encore le Seigneur ouvre nos cœurs. Oui, Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Tu es notre bon et tendre Père. Tu es celui qui nous connaît. Nom par nom, qui connaît chacun de nos besoins et de ce dont on a besoin pour vivre ici dans ce monde. Et on veut se remettre entre tes mains parce que tu as pour chacun de nous ce matin une parole. Et partout dans ce monde où ce matin ta parole est programmée, ton esprit se répand, ta parole est annoncée. Et des personnes dans lesquelles tu as travaillé ou tu as fait découvrir des choses dans ta parole, tu le partages, parce qu'on a envie, de partager, de vivre ces choses ensemble et de se les dire, parce que nous sommes ensemble dans ce monde pour annoncer aussi ta parole. Veuille encore ce matin ouvrir nos cœurs, nos oreilles et nos bouches aussi, pour que nous puissions continuer à t'honorer et à marcher toujours plus demain à ta gloire aussi. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Oui, un peu à la suite du culte de dimanche dernier, et c'est vrai que sur ce chapitre 3 de Jean, c'est un chapitre peut-être qui est le plus connu, qui est le plus lu dans la Bible, mais il y a tellement de choses à dire, et il y a tellement de choses qui en découlent, parce que ce passage parle en premier chef de la nouvelle naissance. Et finalement, la première chose que Jean a à dire, on sait que Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Il parle dès le début de son évangile de l'importance de la parole et de l'importance de la lumière. Et puis le premier message qui suit, c'est la nécessité que pour tout enfant de Dieu qu'il naisse de nouveau. Et on l'a vu ça donc dimanche dernier, et ce qui précède finalement le verset le plus connu de la parole de Dieu qu'on a récité tout à l'heure, donc ce Jean 3,16, eh bien, c'est ce message que Dieu communique à Nicodème. Et ça, c'est le message de l'Évangile, car il y a une nécessité vraiment, quand on rentre dans la vie chrétienne, d'un départ à zéro. Un départ à zéro de notre compréhension, et c'est pour ça aussi que Jésus dit que les enfants sont plus préparés, sont plus aptes à recevoir ce message, et à croire à l'Évangile du salut. Alors, on peut échafauder plein de théories là-dessus, mais certainement que ils ne sont pas justement dominés encore, les enfants, par toute la pseudo-sagesse qu'il y a dans ce monde, et que la simplicité de leur foi fait que, eh ben, ils sont libérés de leur incrédulité, de l'incrédulité. Et aussi parce qu'ils sont eux-mêmes en phase d'apprentissage, et ils sont ouverts à la découverte. Et l'aspect d'être enfant, c'est ça, que nous soyons, nous aussi, des enfants dans ce sens, ouverts à l'apprentissage et à la découverte de ce que Dieu veut nous faire découvrir encore et encore chaque jour. Et si Jésus, finalement, insiste fortement auprès de Nicodème, cet homme, vraiment, qui était plein de sagesse, il était reconnu aux yeux de tous comme tel, il insiste vraiment pour qu'il naisse de nouveau. Et c'est justement pour le libérer de son incrédulité et au sujet de cette bonne nouvelle du salut, et aussi le mettre dans une nouvelle dynamique vraiment de croissance. La Bible est empreinte de ça, le message de Christ, c'est « il est mort pour donner la vie », et la nouvelle naissance, c'est ça aussi. Et le fait de naître de nouveau, finalement, c'est le message, c'est, pour saisir le message du salut, c'est vraiment le passage obligé, car c'est la nouvelle naissance qui nous assure que les choses vraiment anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Ainsi, notre vie chrétienne, c'est un réapprentissage de la vraie vie qui suit notre nouvelle naissance. Et comme le dit Jésus si bien à Nicodème, pour naître de nouveau, il faut d'abord être né une première fois, né dans la chair, né bébé humain. Et puis, une deuxième fois, il faut naître dans l'esprit. Et finalement, c'est pour cela que le message du salut, il s'adresse uniquement à la race humaine. Et ces deux vies aussi sont distinctes. Toujours dans ce même passage de Jean 3, Jésus nous dit qu'il insiste sur le point que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour vivre dans ce monde, la naissance, on voit bien, c'est un passage obligé où nous commençons vraiment notre vie. Et à partir de là, on n'y peut plus rien. Il y a un phénomène de la croissance qui est entamé. Et étape après étape, il y a notre corps qui change, qui grandit, qui se transforme, et puis il devient fort, et il acquiert aussi la capacité de donner la vie. Et ça, c'est tout ce qui caractérise la croissance. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Dès que nous disons oui à l'invitation de Jésus, nous sommes donc nés de nouveau. Et à partir de là, on n'y peut plus rien. Nous entrons dans une nouvelle vie où la normalité, c'est la croissance spirituelle. Et donc ce matin, c'est ce sujet de la croissance, de cette croissance spirituelle que je voudrais aborder et voir un peu ce que ça implique dans notre vie chrétienne. Alors, on peut dire, il y a plein de différentes définitions de la croissance. On grandit en taille, on grandit en quantité, on croit en quantité, on croit en sagesse. On croit à notre connaissance, elle grandit aussi. Et on parle aussi, dans notre société, de croissance économique. Et puis, qui sans elle, il n'y a pas de salut dans ce monde qui est dominé par l'argent. Et dans ce cas, on parle aussi de prospérité. On peut prendre l'exemple de Jésus qui, lui, il est dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et donc, quand on voit là, bien que Jésus, lui, grandissait aussi en stature. Il n'est pas resté le bébé dans la crèche. Il a grandi aussi en tant qu'homme. Et il a grandi aussi devant Dieu, il a grandi aussi spirituellement. Et on voit que aussi cette dynamique, elle est présente dans la Bible quand on voit la parabole de la semence qui tombe dans la bonne terre. On voit qu'elle donne du fruit, on voit que cette plante, elle croissait et elle rapporte 30, elle rapporte 60 et 100 pour 1. Donc à partir d'une graine, la puissance de la vie qu'elle renferme ne peut rien faire d'autre que de croître pour donner son fruit. Et la croissance d'une plante, elle se fait aussi toute naturellement, dans la mesure, et ça c'est la parabole aussi qui nous le dit, où elle est bien exposée, elle est bien nourrie, et oui, la terre aussi a été bien préparée. Donc on peut dire que la croissance fait partie intégrante de la nature de Dieu. Et elle est aussi une caractéristique de la parole de Dieu. Dans le plan de Dieu, là où il y a la vie, il y a croissance. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, nous dit Jean 1, verset 4. Et nous savons que quand nous observons la nature, que là où il y a la lumière, il y a la croissance. Donc cela nous encourage aussi à nous, finalement, qui sommes nés de nouveau, à nous exposer à la lumière de la parole pour croître. Et dès le début de la création, la réalité de Dieu fait que tout est basé sur ce principe de développement et de croissance. Quand il nous est dit en Genèse que les eaux, il fallait qu'elles produisent en abondance des animaux vivants, que la terre produise des animaux vivants, qu'il nous est dit aussi qu'il fallait que nous soyons féconds, que les hommes multiplient, qu'ils remplissent la terre. C'est toujours cette même dynamique de croissance qui traverse ainsi la parole de Dieu. Et nous-mêmes, bien sûr, qui nous sommes une œuvre particulière de la création de Dieu, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, on n'échappe pas à ce processus. D'autant plus quand nous avons la vie de l'Esprit en nous. Tout ce qui est créé par Dieu est régi par cette loi de croissance et d'abondance. Tout ce que le doigt de Dieu touche ou ce qui sort de la bouche de Dieu est empreint de cette vie. Et dans le plan de Dieu pour son Église, Jésus envoie le Saint-Esprit pour qu'à partir de tous les dons et ministères qu'il distribue dans l'Église, ben nous ne soyons plus des enfants, mais que nous croissions. Et lorsque nous réfléchissions avec les anciens au sujet des ministères et puis des commissions, ben nous avions comme verset clé, si vous en souvenez, c'est les versets d'Éphésiens 4. On va les lire ensemble. Et on avait reçu par ces versets l'importance de la croissance spirituelle. Ben, la croissance d'abord peut être individuelle et pour la croissance de tous. Et on va lire ça à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors j'ai mis en gras, je ne sais pas où ça se voit, vraiment ces mots qui mettent vraiment particulièrement là, dans ce passage, en relief, cette dynamique de croissance. Donc le perfectionnement des saints, l'état d'homme fait, la statue parfaite de Christ, afin qu'on ne soit plus des enfants, que nous croissions à tous égards, tire son accroissement, s'édifie lui-même dans l'amour. C'est cette dynamique-là que Christ met dans son Église. C'est cette dynamique-là que Christ met dans notre vie à chacun. Et c'est cet appel de Dieu à grandir qui nous a encouragés à animer finalement la série des conquêtes en Canaan pour prendre conscience de tout ce que Christ nous a donné pour notre croissance spirituelle. Et c'est aussi ce qui a motivé cette série d'études sur l'importance vraiment de connaître Dieu. Car c'est bien là le rôle de l'Église, aussi de faire rayonner cette lumière sur les enfants de Dieu, et puis d'être aussi cette lumière aussi dans ce monde. Et ce qui m'a... Je vais juste m'arrêter un moment sur ce passage, le verset 15. Nous croissions à tous égards. Parce que cette croissance que nous constatons dans la création et l'abondance de la prospérité matériel que nous voyons se déverser au profit du peuple d'Israël, ben, que ce soit ce pays du Canaan qu'ils ont conquis, et puis toutes les richesses qu'ils contenaient, tout cela nous est donné vraiment aussi comme un exemple pour notre édification, et elles sont aussi une image des bénédictions spirituelles que le Saint-Esprit veut faire déverser sur les enfants de Dieu. Et ce que nous voyons sous l'Ancienne Alliance est cette passion vraiment que l'Éternel avait pour son peuple. Il s'était choisi ce peuple et il avait une telle passion qu'il voulait le bénir en tout et surtout matériellement. Et tout cela pour que son peuple l'adore et le craigne. Et ce que nous voyons maintenant dans la Nouvelle Alliance, ben on peut voir cette même passion que le Dieu et Père met pour nous bénir maintenant spirituellement et à tous égards. Tout cela pour que nous l'adorions en esprit, en vérité. Et le premier chapitre d'Éphésiens dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Et cette expression « à tous égards », on la retrouve dans un souhait que l'apôtre Jean fait au bien-aimé Gaius dans 3 Jean 2. Je crois que je l'ai mis, oui. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Là encore, cette expression « à tous égards », elle est associée à la croissance et même à la prospérité. Alors, quelques-uns s'appuient sur ce verset pour annoncer un autre évangile. C'est celui de la prospérité, justement, qui prétend qu'un chrétien ne peut pas être pauvre, ou bien encore qu'il ne peut pas être malade. Et s'ils le sont, c'est parce que c'est le résultat d'un péché ou d'un manque de foi. Ce n'est pourtant pas ce que nous pouvons déduire avec Gaius, car son état spirituel était bon. Preuve en état l'état de son âme. On voit la deuxième partie, comme prospère l'état de ton âme. Mais par contre, sa santé laissait à désirer. Ainsi, notre condition physique, ou même matérielle, n'est pas forcément le reflet de notre état spirituel. En revanche, notre situation morale, elle est bien le reflet de notre état spirituel. À travers la nouvelle naissance, Dieu nous a fait passer de l'état de pécheur à celui d'homme et de femme purifiés par le sang de Christ. Et on peut dire finalement qu'il nous a fait prospérer. Ensuite, il veut nous aider, il veut prendre soin de nous dans tous les domaines de notre vie et nous rendre victorieux dans les combats aussi que nous menons. Et la notion de salut induit tout autant l'idée de restauration et de prospérité dans les divers domaines qui forment notre vie. Dans le langage biblique, quand Dieu te sauve, il ne s'en tient pas seulement à te faire naître de nouveau. Il te sauve de tes péchés, il nous sauve de l'enfer, mais il nous sauve aussi de la maladie, de l'oppression. Il remet peut-être aussi nos idées confuses et nos troubles en passe. Il nous sauve du manque et puis il peut sauver aussi notre compte en banque. Salut, c'est un peu synonyme de prospérité. Ça, on ne peut pas dire, il n'y a pas de doute. Mais comme le dit Jean Gaius, ce deuxième partie du verset, « Comme prospère l'état de ton âme ». Finalement, la prospérité doit être proportionnelle à la prospérité de notre âme. C'est dangereux finalement de prospérer d'une manière disproportionnée à la prospérité de notre âme. Donc la prospérité de notre âme, c'est quoi ? C'est grandir, c'est être renouvelé, c'est s'affirmer en maturité, c'est croître dans l'amour, la foi et aussi dans le renouvellement de notre intelligence. En bref, faire prospérer notre âme, c'est avoir suffisamment de sagesse et de bonnes motivations pour utiliser à bon escient la prospérité. Désormais, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Nous ne sommes plus sur un principe de prospérité matérielle seule. La meilleure preuve, c'est de Jésus qui était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et ça, désormais, notre échelle de valeur, elle est totalement inversée. Notre richesse, notre prospérité n'est pas dans les valeurs de ce monde, mais dans celles du ciel. Dans Matthieu 6, verset 20, Jésus dit « Amassez-vous des trésors où ? Dans le ciel. » Le ciel, c'est quoi ? C'est l'éternité pour nous. Et cette pensée de l'éternité, elle peut être nouvelle dans un premier abord, mais vraiment elle est la conséquence directe de la nouvelle naissance. Et notre vie ne se borne pas uniquement à ces quelques années que nous passons sur Terre, parce que cela en vaut-il la peine de vivre uniquement sur cette Terre ? Mais Dieu, dans sa parole, nous assure que l'essentiel, ce n'est pas cette vie-là, mais bien la vie, l'éternité avec lui. Juste, je cite ce passage vraiment qui est fort et que peut-être il faut se mémorer la suite, 1 Corinthiens 15. Vraiment, dans notre monde dominé par le matériel, vraiment qu'on apprenne ce verset par cœur, ce n'est pas une mauvaise chose. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et on a besoin finalement de se reprojeter dans cette vie éternelle, dans cette nouvelle naissance qui a pour aboutissement la vie éternelle, pour nous positionner en tant que tel et vivre comme tel. Alors bien sûr, il y a des gens cupides qui vont utiliser l'évangile pour capitaliser pour leur propre vente et pour la richesse du gain. Et ça car leur intelligence n'est pas suffisamment renouvelée. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui restent enfants. Ils ont entendu des enseignements sur le sujet et les adaptent à leur propre convoitise et désir de gain. Néanmoins, il ne faut pas mettre tous ceux qui prêchent que Dieu veut nous faire prospérer dans le même sac. Le message, lui, ce message de la prospérité, s'il est prêché de manière équilibrée, il reste biblique. Nous avons vu que la croissance et la prospérité jalonne la parole de Dieu. Et comment serait-il autrement avec un si grand Père qui, en nous adoptant, a fait de nous aussi des princes? Il me semble aussi qu'il y a un autre extrême qui mériterait aussi d'être dénoncé, c'est cet autre évangile, c'est l'évangile de la pauvreté. L'évangile qui dit la foi médiocre, du misérabilisme. Cet évangile s'est beaucoup plus répandu dans le temps. Il a détruit beaucoup de joie, il a détruit des aspirations aussi et la vie de milliers de chrétiens. Car on ne leur donne pas la solution dans cet évangile pour vivre, pour s'en sortir justement de cette vallée sombre de la mort. Et il fait beaucoup plus de ravages depuis plusieurs siècles. Et cela parce que l'on garde les chrétiens dans l'ignorance de leurs droits en Christ. Parce qu'on va même jusqu'à leur faire penser que plus ils sont humiliés et pauvres, plus ils sont spirituels et humbles. Voilà pourquoi remettons vraiment toutes choses à leur place. Et nous-mêmes, qu'enfants de Dieu, nous prenions notre juste place. Fiers et heureux d'être adoptés par un Père qui est si riche et qui nous rend capables aussi maintenant d'envisager l'éternité avec lui. En effet, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous accueille comme des enfants. Et même le but de la nouvelle naissance, c'est que nous démarrions donc cette nouvelle vie comme un bébé, conscient de cette nouvelle vie et de l'éternité qui s'approche. Et poursuivre le processus normal de croissance, et cela afin de se développer étape après étape. Et pour grandir, de quoi nous avons besoin ? On a besoin d'une nourriture adaptée, qui soit adapté à notre âge, donc du lait quand nous sommes petits-enfants et de la nourriture solide quand nous devenons adultes. Cette nourriture, on la trouve dans la parole de Dieu, qui s'adapte à nos besoins en fonction de notre croissance. Et comme toute nourriture, pour qu'elle nous donne des forces, nous devons l'assimiler et aussi il faut qu'elle soit équilibrée. Juste lisons ces versets d'Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et donc d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comme on l'a vu dans le passage des Éphésiens, la maturité des chrétiens est primordiale. Afin que, ce verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il y a un risque à vouloir rester enfant. C'est sûr que c'est peut-être confortable. Il y a l'inconscience, il y a l'innocence, c'est la belle vie. Mais il y a un risque à vouloir rester enfant. C'est celui de se laisser piéger finalement par toutes sortes d'autres évangiles qui nous font passer à côté du plan qui est voulu par Dieu. Il est donc intéressant de voir qu'est-ce que la croissance implique pour nous. Et c'est encore Jean dans le second chapitre de sa première épître qui nous éclaire sur les trois étapes de la croissance chrétienne. C'est Jean dans ce deuxième chapitre qui parle des petits-enfants, qui parle des jeunes gens et qui parle des pères. Pour Jean, les petits-enfants, ce sont ceux qui apprennent à marcher en se séparant du péché et qui vivent conscients que leurs péchés sont pardonnés. Pour les jeunes gens, c'est le verset qui suit. Il y a donc un changement d'état. Il y a cette force. Et on voit que, là encore, ce n'est pas la finalité de rester petits-enfants. Le salut, par la grâce, n'est pas la finalité. Il ne faut pas se contenter d'être sauvé et de vivre, finalement, seulement pardonné et racheté. Non, il y a les processus. Processus qu'on connaît naturellement, mais que nous devons aussi connaître dans notre vie et dans notre vie chrétienne. L'étape suivante, donc, correspond aux jeunes gens, qui, eux, sont forts. Parce que la parole de Dieu demeure en eux, et parce qu'ils ont vaincu le méchant. Leur force, donc, leur permet de résister dans les combats spirituels. Et n'oublions pas que les combats spirituels, c'est justement ce à quoi on est appelé, à combattre contre les principautés et autorités, et pas à combattre seulement contre le sang et leur chair. Et ça, c'est le combat que les jeunes gens sont capables, en Christ, de mener dans la prière, et non seulement dans la prière, d'aller mener des combats en action aussi. Et puis la troisième étape, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc les pères, ils connaissent. Ben, ils ont vécu finalement tout ce cursus, le salut, le maîtrise. Le pardon de leurs péchés, ils ont compris. La vie de prière, ils ont découvert aussi ce que c'est. Et ils voient que c'est l'importance de se mettre en route et de se mettre en marche. Et ils connaissent. Et ils sont dans le repos. La connaissance de Dieu leur suffit. Et donc ça suffit ainsi demeurer dans la confiance de Dieu, en se laissant porter par la connaissance toute suffisante de notre Dieu. C'est pour ça que c'est important ensemble, d'apprendre à connaître qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut pour nous, pour être dans ce repos. Il ne suffit pas de faire plein de choses, mais simplement connaître Dieu et les choses en découlent, et laisser finalement Dieu faire les choses à notre place. Donc ce qui nous implique, nous, en tant que chrétiens, conscients vraiment de ces choses, c'est de ne pas être un frein à cette dynamique de croissance. On est issu d'une nouvelle naissance. Alors laissons-nous emporter, emmener par cette nouvelle vie, en se laissant porter par la vraiment en se laissant porter par ce courant d'eau, par cette dynamique qui est faite finalement de prospérité, mais aussi avec notre échelle de valeur qui est inversée. Il y a un moment, Anne-Marie, elle avait introduit en lisant Ésaïe 44. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est début de ce chapitre, de quoi parle ce chapitre au début. Il dit « Je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Et ça, moi je dirais, c'est le tout début de la vie, ça. Est-ce qu'on se contente de l'eau juste sur le sol? Est-ce qu'on se contente des ruisseaux? Ou est-ce qu'on veut être vraiment emporté dans ce torrent d'amour et de grâce? On a chanté ça avec la chorale et ça m'a fait réfléchir Ce chant parle de torrent d'amour et de grâce. C'est déjà plus qu'un petit ruisseau. Un torrent, c'est un peu plus dynamique. Et puis après, on continue dans le chant, c'est à ce grand fleuve qui passe. Ah, ça grandit encore plus. Et donc, ce chant nous montre aussi cette dynamique, cette croissance. Et pour conclure, moi je voudrais finir aussi en lisant un morceau de, enfin, quelques versets d'Ésaïe 47. Ézéchiel 47. Parce qu'on voit que ces étapes-là, Ézéchiel les a vues en vision et de façon vraiment imagée. Et elles sont intéressantes, ces images. Parce qu'on prend ce chapitre vraiment comme une prophétie qui est liée à Israël et surtout à Jérusalem. Mais nous sommes aussi, nous, le temple de Christ, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, nous aussi, cette maison, cette habitation de Dieu dans laquelle, finalement, des choses, non seulement un torrent peut se dérouler, mais un fleuve. Donc, à partir du verset 1, on va lire tout le passage. Hein. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer, et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Voilà, j'ai mis un peu en gras aussi cette progression, cette croissance, jusqu'aux chevilles. Et ça parle de la vie aussi des enfants. Quand on est petit enfant, on apprend à marcher. Et les chevilles, oui, c'est les premières choses qui sont sollicitées pour apprendre à marcher. Et donc, cette eau, au début, on a besoin d'apprendre à marcher et d'être en contact aussi dans cette vie de l'esprit, dans notre marche. Et puis plus on grandit, plus on devient jeune gens, on voit que l'eau vient jusqu'au genou. Et le genou nous parle de la prière, de nous mettre à genoux, d'apprendre à prier, d'apprendre simplement à parler à Dieu et de faire monter des prières de demande et d'action. Et puis plus on grandit, on croit et on avance, et on voit que dans ce passage, chaque fois, on croit que c'est lui qui avance tout seul, mais c'est l'ange, il me fit traverser l'eau. Et chaque fois, il me fit traverser l'eau. Chaque fois, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous entraîne. C'est lui qui nous donne la main et qui nous fait traverser, qui nous fait progresser. Et on voit que l'étape suivante, c'est les reins. Les reins, c'est la force. C'est-à-dire qu'on est assez fort, comme les jeunes gens, pour rentrer en action, pour se mettre en marche, pour mener des combats, non seulement dans la prière, mais des combats aussi en action. Et jusqu'au moment où on grandit et l'eau est profonde pour y nager. Et là, on est totalement bordé, submergé. C'est ce statut de père où on voit que la connaissance de Dieu, tout cela nous suffit. Et ce qui est important de voir, c'est que l'ange le refait revoir un peu en arrière, le refait venir au bord du torrent et il voit que la vie, elle a transformé, que les berges, finalement, se sont fleuries, que les arbres de chaque côté ont poussé. Donc voilà cette dynamique de croissance que Dieu met par le Saint-Esprit dans chacune de nos vies. C'est cette dynamique-là, cette croissance que Dieu veut. Ne restons pas seulement à notre connaissance du salut et à notre perception simplement de notre vie que voilà, je suis en Christ et ça me suffit. Non, suivons cette voie, cette main, il me fit traverser et continuons les, parce qu'il ne veut pas qu'on reste simplement au bord du torrent. Donc, pour finir, voilà, ne restons pas statiques. Ne présageons pas que notre vie est aboutie et ou que les choses sont arrêtées dans notre vie, que nous restons et demeurons maintenant fermement dans notre vallée sombre de la mort. Non, le Seigneur veut nous faire sortir de là. Et la prospérité, elle est bien sûr spirituelle. Et après, elle peut se décliner et en fonction de notre maturité, de notre croissance, plein de choses peuvent arriver. Voilà, quelques instants pour mettre dans vos réflexions et prier aussi pour que vous ne soyez pas des freins à cette croissance, cette dynamique que l'Esprit veut mettre en chacun de nous.
Merci Pierre pour ce message. Merci parce que il y a encore du boulot. On n'est pas resté oisif. On a tout un programme devant nous et c'est important d'y rentrer. Ce matin, juste avant notre culte, le culte d'une autre église évangélique située à Montilly-les-Arzures, une église que je ne connais pas mais que Brian connaît bien, ben figurez-vous que leur culte de 10h à 10h30 est passé dans l'émission Présence protestante sur France 2. C'est Brian qui m'a donné cette information. C'est vrai qu'on peut prier pour nos frères et sœurs qui sont près d'Arbois, dans le Jura, et qui ont aussi là-bas un témoignage chrétien. Le programme de la semaine. Lundi, Femme Club, donc chez Rebecca. Mardi, réunion de prière. Jeudi, c'est bien juste, chorale. Ouais. Samedi, le groupe de jeunes qui est avancé à 19h. Dimanche prochain, il y a le thé café. Mais si vous voulez arriver à l'heure pour le thé café, moi je vous conseille de changer l'heure sur vos montres parce que c'est justement le changement d'heure dimanche prochain. Alors, on ne sait jamais s'il faut avancer, reculer l'heure sur la montre. Sachez juste que si vous ne touchez pas votre montre, dimanche prochain, si vous venez pour l'heure du culte, vous arriverez juste pour les annonces. Donc en fait, il vous faut partir plus tôt. Donc dimanche prochain, il y a bien le thé café. Oui, 10h30, oui. Ah ben oui, ben oui. J'ai recopié le fichier d'il y a 15 jours où le culte en commun était à 10h et paf. Donc 9h30 le thé café et 10h30 le culte. Et c'est donc un culte de témoignage. Donc si vous avez un témoignage à partager, pas un culte à partager, un témoignage à partager. Si vous avez un témoignage à partager, ben merci de vous y préparer. C'est important de pouvoir vivre ces moments d'échange, de pouvoir partager ce que Dieu fait dans nos vies, puis à travers de nos vies aussi. Et puis, ce culte sera aussi suivi d'un pique-nique. Et c'est important aussi de pouvoir prendre du temps ensemble. Rebecca nous en a parlé. La communion fraternelle, c'est pas rien, c'est quand même, c'est important de la vivre et de la vivre entre nous. Donc, pensez aussi à ce temps qu'on peut vivre ensemble. La semaine d'après, donc, dans une dizaine de jours, mardi 31, on a une assemblée de membres qui est prévue, dans laquelle il y aura des informations qui seront partagées, puis dans laquelle aussi on réfléchira aussi quant à l'affectation des dons de l'association de l'Église. Le week-end d'après, c'est déjà le week-end de Pâques. Alors, on vous propose des lectures de Pâques le vendredi soir. C'est vrai que c'est important de vivre ce temps de Pâques dans la présence de Dieu, de nous y préparer, de vivre aussi cela ensemble. Et c'est vrai que le fait de lire des passages de Pâques, en commençant ce week-end, en lisant des passages de Pâques, ça nous aide à rentrer dans ce week-end de Pâques. Et puis on aura aussi un culte de Pâques centré sur la croix. La croix est la libération des fardeaux qu'elle permet dans nos vies. Avec aussi un petit peu un vécu communautaire, je ne vous en dis pas plus. J'espère que ça vous donne envie d'y participer. Donc un culte de Pâques un petit peu particulier. Dans les sujets de prière, prions aussi pour la fête de la musique. La fête de la musique, elle aura lieu le week-end du 20 et 21 juin. Donc il y a une demande a été faite à la mairie pour qu'on puisse participer au niveau choral et au niveau musique aussi, dans la commune, qu'on puisse partager cela aussi dans la commune. C'est aussi une forme de témoignage. Donc la mairie a dit qu'ils allaient y réfléchir, ils vont nous donner une réponse. Ben, prions aussi pour cela, pour que la réponse soit conduite par notre Dieu aussi. Je vais laisser la place à Anne-Marie qui va nous faire une petite annonce concernant Portes Ouvertes.
Cette année, Portes Ouvertes fête ses 60 ans et pour ce faire, ils vont faire une grande tournée en France avec une coccinelle comme la voiture que Frère André avait utilisée pour ses premiers voyages derrière le rideau de fer. Et ils vont faire chaque fois une journée, enfin, ça sera le 19 avril, il y aura une journée dans les grandes villes principales. Et nous, ils nous ont envoyé des flyers et une invitation pour venir à, donc, le 19 avril à Lyon et passer une journée un après-midi de témoignage, de message à 14h30. Avec une animation pour les jeunes. Alors, je vous lis ce qu'ils vont proposer. Deviens contrebandier au pays du Nobiblistan. C'est donc une mise en condition, je suppose. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Ça se passe à Mézieux, près de Lyon, dans une assemblée chrétienne. Alors, on en reparlera par la suite, si on peut faire... Pourquoi pas un voyage en voiture à plusieurs.
Je vous rappelle aussi les flyers d'inscription pour les camps de la JAB qui sont au fond. Et puis, comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. La semaine passée, on ne l'a pas fait parce qu'on avait le culte en commun. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a pensé à aller regarder sur le site quel était le pays pour lequel on vous proposait de prier la semaine passée. Mais enfin, hein ? Ouais, donc la semaine passée, dans les différents pays qui défilent, c'était le pays du Qatar. Exact. Est-ce que vous savez où est le pays du Qatar ? Alors, c'est un pays tellement petit que le numéro sur la carte cache presque ce pays. C'est le numéro 18, à droite de l'Arabie Saoudite. Le Qatar est un tout petit pays et 11 500 km², c'est vraiment pas très grand. Mais il y a quand même 2,3 millions d'habitants, il y a quand même des grandes villes dans ce pays. Et pour 2,3 millions d'habitants, il y a environ 90 000 chrétiens, principalement catholiques. Et dans ce pays, il y a une monarchie absolue, ce qui fait que, c'est la monarchie, donc ceux qui pensent autrement ne sont pas les bienvenus. Pour la semaine qui vient, on vous invite à prier pour le Turkménistan. Le Turkménistan, à ne pas confondre avec la Turquie, le Turkménistan est donc situé à droite de la mer Caspienne, c'est le numéro 20 là. Dans ce pays, il y a un régime dictatorial qui veille à ce qu'il n'y ait aucun autre mouvement, aucun mouvement indépendant, comme des églises par exemple. Donc ces mouvements indépendants n'ont pas le droit de se former. La population qui est de 5,4 millions d'habitants, et pour 5,4 millions d'habitants, il y a 94 700 chrétiens. Donc environ la même quantité de chrétiens que dans le Qatar, sauf que la population globale est plus de deux fois plus importante. Et la religion principale dans ce pays, c'est l'islam. Et donc, aucune autre forme de pensée que ce que pense la dictature n'est autorisée. Donc prions aussi pour l'Église en Turkménistan. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Ésaïe pour terminer ce culte, qui sont une promesse. Ésaïe 55, versets 12 et 13. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous Et tous les arbres de la campagne battront des mains. C'est pas courant ça, que les arbres battent des mains. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Soyez bénis et passez une semaine bénie aussi dans cet état d'esprit.